I'm turning today to Paul's second letter to the Corinthians, chapter 9. Well, I'll begin chapter 8 and verse 13.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu aujourd'hui dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 8 et au verset 13. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 13. En effet, pour que les autres soient soulagés, il ne faut pas que vous soyez surchargés. Au contraire, qu'il y ait égalité. Que votre abondance supplée maintenant à leur indigence. Et notre sujet, c'est les dons, les offrandes, toutes les offrandes de temps, d'énergie qui sont données pour le service du Seigneur. Et ces principes peuvent s'appliquer à toutes ces choses, mais dans ce contexte immédiat, c'est aider les pauvres à Jérusalem, au temps de l'apôtre Paul. Et ici, au verset 13, nous commençons notre étude sur les dons et le principe de semer et moissonner. Ce n'est pas souvent que nous parlons de ce sujet, assez rarement. Mais nous en arrivons dans notre étude de ce chapitre de 2 Corinthiens. Et ainsi, nous considérons les instructions qui nous sont données par Dieu, par l'apôtre Paul, dans ce passage. Au verset 13, en effet, « Pour que les autres soient soulagés, il ne faut pas que vous soyez surchargés. » Au contraire, qu'il y ait égalité, un terme intéressant que l'apôtre Paul utilise. Toutes sortes de choses qui sont en relation avec les dons sous toutes leurs formes, en particulier en ces jours avec les gens de la prospérité qui tordent ces passages et qui ne les interprètent pas de la bonne manière. Et nous voyons ce que le Seigneur nous demande. Mon premier point, c'est un cœur ouvert. C'est là le thème initial de l'apôtre Paul. Un cœur ouvert qui se donne, au verset 14, qu'il y ait égalité. D'abord, les églises de la Macédoine ont fait leur offrande pour l'église de Jérusalem qui était pauvre. Nous avons vu cela dans une étude précédente. Vous savez que après le jour de la Pentecôte, ceci c'était quelques années après, mais après le jour de la Pentecôte, il y avait des milliers de Juifs qui se sont convertis à Christ. Et après le jour de la Pentecôte, des milliers se sont rajoutés et le nombre à Jérusalem de croyants était énorme. Mais le patriotisme, le nationalisme était ce qui était prééminent à l'époque et ils haïssaient ce message. Ceux qui professaient Christ, ceux qui s'étaient convertis étaient exclus de leur maison et ils perdaient leur travail. Et ceci a continué jusqu'au ministère de l'apôtre Paul et pendant son ministère. Ainsi, les églises non-juives, non seulement par l'inspiration de l'apôtre Paul, mais également par leur propre initiative comme en Macédoine, malgré leur propre pauvreté, ils ont amassé cette offrande pour aider les gens à Jérusalem qui étaient si pauvres. Ainsi, à présent, l'apôtre Paul organise une offrande de la part d'églises de plusieurs régions pour amener ceci à Jérusalem. Et il utilise ce terme, qu'il y ait égalité. Et à première vue, quand nous voyons ce terme, nous nous demandons si c'est une forme de communisme, si la suggestion ici, mais c'est impossible bien évidemment, que les églises et les chrétiens doivent tous avoir la même chose et que tout le monde soit au même niveau. Un principe d'égalité dans ce sens-là. Non, mais alors que nous continuons à lire, c'est évident que ce n'est pas l'égalité dans les moyens, dans les biens. Il y a beaucoup de différences entre les différents croyants, mais une égalité pour prendre soin des autres, une égalité de bonté. Au verset 14, l'apôtre Paul dit qu'il y ait égalité. En grec, c'est ressemblance, qu'il y ait une ressemblance, que, à présent, votre abondance supplée maintenant à leur indigence, à leurs besoins, afin que leur abondance supplée aussi à votre indigence, à un autre moment. Et c'est là le sens de l'original, clairement, que à présent, en ce moment-là, ceci est important dans la grammaire de l'original grec, que votre abondance supplée maintenant à leur indigence, afin que, à un autre moment, et ceci est implicite dans le texte, leur abondance supplée aussi à votre manquement, et en sorte qu'il y ait égalité, ressemblance, que vous puissiez prendre soin l'un de l'autre. L'offrande des Corinthiens, des Macédoniens et d'autres, donnée à Jérusalem, peut-être plus ou moins que l'offrande qui va leur être donnée plus tard si les circonstances changent. Ce n'est pas une égalité de somme, de montant, mais de caractère, que votre bonté sera exercée de la même manière par eux si la situation change. Même si c'est quelque chose de technique, je pensais que c'était important de mentionner ceci dès le début. L'Église de Rome a une interprétation bien différente de ce verset. Ils veulent toujours trouver dans la Bible des textes qui justifient leur système de hiérarchie, mais il n'y a aucun texte, et leur pape et les évêques qui dominent, de manière à ce que les églises individuelles et les chrétiens individuels sont en bas de la pyramide et n'ont rien à dire et que les autorités dominent sur eux. Et ils tordent ce verset de manière à ce que ce ne soit pas du tout le sens de la grammaire originale. Ils disent que votre abondance, votre argent, supplée leur indigence, afin que leur abondance est ceci. Ils l'interprètent comme étant l'autorité de l'Église de Rome, supplée aussi à votre manquement. Dans ce cas-là, c'est Jérusalem, mais plus tard, ce sera l'Église de Rome, vous dirige, vous, et vous donne l'autorité, la direction, et vous leur donnerez votre argent. Bien sûr, ce n'est pas du tout une égalité, ce n'est pas du tout une ressemblance. Mais l'apôtre Paul parle ici de bonté, d'amour. Ce que vous donnez à Jérusalem, peut-être qu'un jour, ils vont devoir vous le donner dans d'autres circonstances. Ceci n'a rien à faire avec une justification du système hiérarchique de l'Église catholique. Et ceci est un peu technique, mais c'est le début. Et l'apôtre Paul dit ces choses clairement, et il a un exemple merveilleux au verset 15, parce qu'il cite Exode 16, l'exemple de la manne, selon il est écrit « Celui qui recueillait beaucoup n'en avait pas plus, et celui qui recueillait peu n'en avait pas moins. » Oh, ceci a son sens dans ce contexte, si vous relisez Exode 16, et vous regardez quelle était la méthode qui était suivie pour donner la manne. Les gens sortaient pour récolter la manne, certains récoltaient beaucoup, d'autres moins. Et nous pouvons imaginer quelles étaient les raisons pour cela. Peut-être que ceux qui étaient plus âgés, plus faibles, récoltaient moins. Mais ceci n'affectait pas la distribution, parce que la manne était ramassée et redonnée aux familles selon leurs besoins, selon le nombre de bouches à nourrir. Et ainsi, il y avait une similarité. Dieu pourvoyait et chacun recevait ce dont il avait besoin. C'est là le principe. Quand nous donnons notre aide et quand nous donnons pour le Seigneur, pour l'œuvre du Seigneur, pour tout effort que nous donnons dans le service pour le Seigneur, c'est que tous doivent être aidés. La bonté pour tous. Au verset 16, où le thème change un peu, et j'aimerais parler d'un deuxième point, la priorité de l'Évangile. Or grâce soit rendue à Dieu qui a mis le même zèle pour vous dans le cœur de Tite. C'est extraordinaire comment l'apôtre Paul, inspiré, parle toujours. Nous pensons parfois bien différemment, mais l'apôtre Paul, il ne dit pas tout d'abord « Nous sommes reconnaissants pour Tite, nous sommes reconnaissants qu'il ait ce cœur pour vous et qu'il soit venu à vous, qu'il se soit donné pour vous, pour le ministère, qu'il soit en souci pour vous. » Il dit « Nous rendons grâce à Dieu. » Parce qu'il a mis ce zèle dans le cœur de Tite, c'est l'œuvre de Dieu. Est-ce que nous ne donnons aucun crédit à Tite? Oh, un peu, si. Il n'a pas éteint ce don de Dieu ou mis de côté l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans son cœur, mais nous rendons grâce à Dieu en premier. Et vous voyez ce qui se passe quand vous pensez ainsi. Or, grâce soit rendue à Dieu. Les croyants à Jérusalem, quand ils ont reçu l'offrande et le soutien des églises, ils vont remercier Dieu en premier. Et seulement après, ils vont être reconnaissants envers les Macédoniens, les Corinthiens et Tite, celui qui portait l'offrande, l'aide et ce qui l'accompagnait. Tout d'abord, ils étaient reconnaissants envers le Seigneur. Et ils voyaient ceci comme étant une œuvre de Dieu qui a œuvré dans le cœur de ces gens pour faire cette offrande. Et ainsi, ils recevaient cette assurance, ce bienfait. Dieu prend soin de nous. Dieu a fait cette grande chose pour nous. Ainsi, ils ont remercié Dieu plus que les messagers. Et c'est ce que nous devrions faire également. Ceci vient du Seigneur. C'est lui qui exprime son amour pour nous en œuvrant dans le cœur de Tite et des autres. C'est lui qui les a inspirés à donner. Et ensuite, il y a ce remerciement pour Tite au verset 17, « Car il s'est rendu à mon exhortation et il est parti avec un plus grand empressement et de son bon gré pour vous voir. Mais Dieu vient en premier et Tite en deuxième. » Et c'est un principe important de l'apôtre Paul. Et il est toujours fidèle à ce principe durant toutes les épîtres. Au verset 18, ceci nous amène à quelque chose qui semble surprenant à première vue, mais qui nous montre beaucoup par rapport à la priorité de l'Évangile. Nous avons aussi envoyé avec lui, avec Tite, le frère dont la louange est répandue dans toutes les églises en ce qui concerne l'Évangile. Certains se sont dit « Mais qui était ce deuxième frère ?» Et beaucoup de commentaires essayent de décider qui est ce deuxième frère, dont on ne connaît pas le nom. Et il y a toutes sortes de suggestions. J'imagine que la suggestion la plus populaire, c'est Luc. Mais il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles ça ne pouvait pas être Luc. Et d'autres parlent de Barnabas. Mais il y a encore plus de raisons pour lesquelles ça ne peut pas être Barnabas. Et d'autres pensent à Silas. Mais c'est peu probable parce que Silas était connu des Corinthiens. Ainsi, l'apôtre Paul n'aurait pas parlé de lui de cette manière-là, comme s'il était un étranger pour eux. Et d'autres parlent d'Aristarque. Mais il y a d'autres raisons pour lesquelles ça ne pouvait pas être Aristarque, qui était de Macédoine lui-même. Si vous voulez une suggestion, c'est probablement Tychique. Parce que, tout simplement, personne n'a d'argument pour lequel ça ne peut pas être Tychique. Mais nous ne savons pas. Paul ne nomme pas le deuxième frère. Et il ne nomme pas non plus le troisième frère, dont on va parler dans un moment. Ainsi, la question c'est pourquoi est-ce qu'il ne le nomme pas? En général, il nomme les messagers. Pourquoi est-ce qu'il ne nomme pas ses frères? La première suggestion pour cela, c'est que de le nommer pourrait prendre l'attention loin de Tite, et il veut souligner que Tite est celui qui représente l'apôtre Paul officiellement. Mais une raison encore plus importante, il y a des choses qui sont très importantes. Si vous nommez la personne, peut-être vous allez obscurcir les choses importantes. Nous avons, au verset 18, aussi envoyé avec lui le frère qui n'est pas nommé, dont la louange est répandue dans toutes les églises en ce qui concerne l'Évangile, qui est loué pour sa prédication de l'Évangile par toutes les églises qu'il a visitées jusqu'à présent. Il est un homme de l'Évangile. Il prêche souvent, constamment, l'Évangile pour persuader les prédications d'évangélisation en amenant les pécheurs à se repentir, en les exhortant, en les persuadant, en les convaincant. Il est un homme de l'Évangile. Mais nous pourrions nous demander pourquoi est-ce que vous avez besoin d'un homme qui parle de l'Évangile pour rassembler l'offrande pour l'église de Jérusalem, là où les enfants de Dieu étaient pour beaucoup dans la pauvreté. Pourquoi est-ce que vous voulez un homme qui prêche l'Évangile? L'une des raisons, c'est que ce frère qui n'est pas nommé va prêcher également, clairement, en même temps qu'il prendra l'offrande, et pour d'autres raisons également. Ceci montre son cœur. Et parce que la Bible, le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, ne veut pas que l'aide soit donnée et que ce soit plus important ou aussi important que l'Évangile. Ainsi, il veut s'assurer qu'il y ait quelqu'un qui est là en particulier et qui est connu pour son amour pour l'Évangile, pour sa prédication de l'Évangile. Lui va être équilibré, il ne va pas errer du chemin, il ne sera pas dans l'erreur. Beaucoup de gens aujourd'hui sont dans l'erreur. Certaines personnes dont le cœur est probablement bien intentionné, mais ils disent « Oh, l'œuvre de compassion est aussi importante que l'Évangile », mais ceci est faux. Certains pensent que c'est les deux ailes d'un oiseau et que ces choses sont égales, mais non. Si nous avons l'occasion de faire le bien, nous devons le faire, mais l'Évangile a toujours la priorité. C'est la chose importante, la chose principale pour nous. Ainsi, ce frère est mis à part et il est connu pour prêcher l'Évangile dans toutes les églises. Ceci montre son cœur. Le deuxième principe, c'est que non seulement il est mis à part par son Église, mais d'autres également, au verset 19. Et non seulement cela, mais il a été choisi aussi par les églises au pluriel. Ainsi, ils ont pris la peine de consulter les autres églises. Ce frère et cet autre frère, est-ce qu'ils seront acceptables pour vous? Ce sont là des hommes en qui ils ont entière confiance et ainsi ils sont mis à part. Nous voyons ici le fonctionnement de l'Église primitive, comment elle opérait, et ceci est important. À cause du verset 20, nous avons pris cette précaution afin que personne ne nous blâme dans l'administration de ces biens abondants, de ces dons abondants, ou que personne ne trouve une faute dans nos finances, parce qu'ils faisaient bien attention. Les prédicateurs étaient au-dessus de toute accusation. Il ne pouvait jamais être dit qu'ils étaient malhonnêtes, qu'ils prenaient l'argent. Non, bien sûr qu'ils ne l'auraient pas fait. Mais ce n'était pas possible pour quiconque de suggérer cela, qu'ils auraient pu le faire. Ainsi, il y avait plusieurs personnes en qui ils avaient toute confiance et qui prenaient soin de l'offrande. C'est une autre raison pour laquelle nous ne pouvons pas faire confiance dans ces prédicateurs qui sont des soi-disant prédicateurs de la prospérité, qui ont tant d'argent, de biens, ils n'obéissent pas au Nouveau Testament et au profil du Nouveau Testament en aucun cas, en aucun sens. Au verset 21, « Ayant soin de faire ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. » Et au verset 22, un troisième frère qui n'est pas nommé. « Nous avons aussi envoyé avec eux notre frère, un autre frère, dont nous avons souvent éprouvé le zèle en plusieurs rencontres. » Qui était-il? Et qui en aura plus encore en celle-ci, à cause de la grande confiance qu'il a en vous. Au verset 23, « Ainsi, pour ce qui est de Tite, s'il y avait quelqu'un à Corinthe qui avait des doutes, bien sûr que non. Il est mon compagnon et il travaille avec moi pour vous. » Et à la fin du verset 23, « Et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des églises et la gloire de Christ. » Et ceci est si important. Quel titre, comme étant serviteur de Dieu, ceux qui rassemblaient l'offrande pour les chrétiens de Jérusalem sont décrits comme étant non seulement les envoyés des églises, mais également la gloire de Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Comment est-ce qu'un homme, des hommes, peuvent être la gloire de Christ? Parce qu'ils représentent ou personnifient la bonté de Christ qui pourvoit et qui prend soin de ses enfants. La gloire de Christ est présente toujours avec ses enfants pour prendre soin d'eux. Il connaît notre condition. Il est toujours avec nous. Sa grande gloire est là pour veiller sur nous. Et voyez la gloire de Christ dans les messagers qui prennent cette grande offrande et l'amènent à Jérusalem. Ils représentent, ils illustrent la gloire même de Christ qui opère dans l'offrande de ses enfants pour aider ses enfants à Jérusalem. Au verset 24, « Donnez-leur donc, et ceci est pour nous, écoutez ceci, donnez-leur donc en présence des églises des preuves de votre amour et du sujet que nous avons de nous glorifier de vous, montrez les preuves. » C'est là ce qui dit en grec les preuves de votre amour. Est-ce que nous n'avons pas besoin de ceci si souvent? Nous disons que nous nous aimons l'un l'autre, mais est-ce que nous montrons les preuves? Est-ce que nous exprimons ceci? Est-ce que nous faisons l'effort d'exprimer notre amour d'une forme ou d'une autre? Ou est-ce que ceci, c'est notre secret, notre amour secret dans notre cœur? Notre amour pour les autres chrétiens, pour l'Évangile, ceci est un texte important. Vous pourriez avoir ceci comme votre texte clé pour toute l'année. Donnez-leur donc, en présence des églises, des preuves de votre amour. Certaines personnes disent que, quand ils rencontrent un chrétien dans un couloir à l'église, ils sont complètement ignorés. Non, nous devons montrer notre amour. Par votre offrande, dit l'apôtre Paul, et par toutes sortes d'autres choses, vous exprimez votre amour fraternel dans la famille de Dieu. J'en arrive à un troisième point. Pour ceci, j'en arrive au chapitre 9 et au verset 6. Parce que les cinq premiers versets du chapitre 9 s'appliquent aux Corinthiens. Mais au verset 6, nous continuons ce thème et ce seront les facteurs spirituels dans notre offrande. Au reste, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera aussi abondamment. Ceci, c'est évident, l'illustration du fermier. S'il sème peu, s'il sème la semence dans l'esprit de quelqu'un qui pense qu'il perd quelque chose, qu'il gâche quelque chose, alors il aura une petite récolte. Mais s'il sème de manière généreuse, alors il aura un bon rendement. Et c'est un principe pour l'offrande du chrétien. C'est un principe, sans aucun doute. Le fermier, bien sûr, ne considère pas la semence comme étant perdue, parce qu'il l'a mise dans la terre. Il pense que c'est un gain dans beaucoup d'aspects. Et c'est là ce que Dieu nous demande de faire. Et ceci est suivi d'une exhortation. Quand nous semons pour l'œuvre du Seigneur dans notre offrande, ou si nous donnons notre temps, notre énergie pour le service du Seigneur dans notre témoignage, nous ne devons pas voir ceci comme étant quelque chose que nous abandonnons, que nous perdons. Ce temps, cette énergie, ces moyens, ces choses sont semées et elles portent du fruit. Si ces choses sont semées sincèrement, avec une bonne volonté. Calvin parle de ceci et ceci est merveilleux. Il dit, quand vous donnez un don, une offrande, l'ancienne nature, la chair, proteste. Il dit, non, ceci m'appartient. Je vais perdre ceci. Je ne le verrai plus. Ceci m'appartenait. Calvin dit, alors répondez à la chair avec votre raison et dites à votre chair que votre esprit, votre raison dise à votre chair, oh oui, j'ai perdu ceci. Mais dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6, Dieu me dit que je ne le perds pas, mais je le sème et j'aurai une récolte. Et Dieu va bénir ces choses, de manière à ce que je ne peux pas imaginer. Ainsi, répondez à votre chair et ne la laissez pas vous empêcher de donner. Il y a une autorité dans ce verset 6. Ne laissez pas l'autorité de ce verset être affaiblie parce que ces choses viennent sous la forme d'une illustration. Au reste, celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème abondamment moissonnera aussi abondamment. Comment est-ce que nous moissonnons? L'évangile de la prospérité dit que si vous donnez de l'argent, vous allez recevoir de l'argent. Si vous semez de l'argent, vous allez récolter de l'argent et vous serez enrichi. Mais l'Écriture ne dit pas ceci. L'apôtre Paul, ici, n'a pas le temps pour s'enrichir en argent, mais il explique que cet enrichissement est spirituel. Au verset 7, que chacun donne selon qu'il l'a résolu en son cœur, si vous êtes sincère, et que vous voyez réellement l'objectif pour lequel vous donnez l'œuvre du Seigneur, ou pour aider ceux qui sont dans la souffrance. Que chacun donne selon qu'il l'a résolu en son cœur pour faire le bien, non à regret, de manière réticente, avec murmure, ni par contrainte, par devoir, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et il est prêt à donner, il désire être une bénédiction. Et l'enrichissement vient au verset 8, et Dieu est puissant pour vous combler de toutes sortes de grâces, pour qu'elles surabondent en grec. Afin qu'ayant toujours tout ce qui vous est nécessaire, vous abondiez, vous surabondiez en toutes sortes de bonnes œuvres. Est-ce que vous ne préférez pas avoir la bénédiction spirituelle plutôt que de l'argent? Dieu va pourvoir pour vous en tant de manières. Il va vous donner l'assurance, il va vous donner la compréhension, il va vous donner la joie spirituelle, il va vous donner des occasions spirituelles, il va vous donner tant de choses qui sont des grâces, des bienfaits. Dieu est puissant pour vous combler de toutes sortes de grâces, toutes sortes de dons de la part de Dieu, pour qu'elles abondent, afin qu'ayant toujours tout ce qui vous est nécessaire, être reconnaissant, avoir suffisamment, vous serez entièrement satisfait par ce qu'il vous a donné, par ce que vous avez en toutes choses. Vous serez si reconnaissant de la sagesse parfaite de Dieu de ce qu'il vous a donné. Vous abondiez en toutes sortes de bonnes œuvres. Et ce terme « bonnes œuvres » ici, ce sont des œuvres de bonté, que ce soit le témoignage pour Christ ou l'aide pour d'autres chrétiens, s'aider l'un l'autre. Toute bonne œuvre qui se donne, selon qu'il est écrit, Dans le psaume 112, verset 9, « Il a répandu, il a donné aux pauvres, sa justice demeure éternellement. » Ce qui veut dire probablement « Il ne sera pas oublié. » Et votre bonté ne sera jamais diminuée, et ceci deviendra comme naturel alors que vous l'exercez. Et ces choses ne s'effaceront jamais. La prière de l'apôtre Paul au verset 10, « Or celui qui fournit la semence au semeur, qui vous a donné tout ce que vous avez, et du pain pour sa nourriture, il prendra soin de vous, bien sûr, c'est ce qu'il fera, vous donnera et multipliera votre semence, votre capacité à donner, et augmentera les fruits, les résultats de votre justice, ce qui veut dire votre bonté, ici, afin que vous soyez enrichis en toute manière, pour accomplir toutes sortes de libéralités, pour être de plus en plus généreux, qui fasse rendre à Dieu par nous des actions de grâce. Et l'objectif de votre générosité, de vos efforts, de votre énergie, de votre temps que vous donnez, ce sera la reconnaissance envers Dieu. C'est là ce que nous voulons, c'est là l'objectif principal. Nous voulons aider les chrétiens pauvres à Jérusalem, mais plus que cela, l'objectif ultime, c'est qu'ils remercient le Seigneur, qu'il le loue pour sa bonté, pour sa fidélité. L'apôtre Paul répète ceci parce que ceci est important. Verset 12, car l'administration de cette offrande non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais encore elle abonde en actions de grâce que plusieurs rendront à Dieu. La reconnaissance envers Dieu, et c'est là notre objectif. Et ensuite, il le répète à nouveau au verset 13. Mais le temps passe, et au verset 14, il répète ceci d'une certaine manière, en disant, « Ne voyez-vous pas, ils prient pour vous, et ils ont cet amour pour vous, à cause de l'excellente grâce que Dieu vous a faite. Ils remercient Dieu pour sa grâce dans vos cœurs. » Et le verset final de ce chapitre, ce verset merveilleux qui parle de Christ, « Or, grâce soit rendue à Dieu de son don ineffable. » Dieu a donné le don le plus grand de tous, Christ le Seigneur, et Christ a donné le don dont nous dépendons tous, la croix du calvaire, sa mort expiatoire et sa justice qui nous est imputée. Et lui est l'exemple, notre exemple, il est le Seigneur. Dans notre nature même, nous sommes méchants. Mais avec Christ en nous, avec la nouvelle nature, nous avons une nature qui se donne et une éthique qui se donne. Or grâce soit rendue à Dieu de son don ineffable. Un terme qui veut dire que la gloire de Christ ne peut jamais être exprimée entièrement, pleinement. Son don est si immense, si extraordinaire. Nous pouvons parler de certaines de ses grâces sur cette terre et nous serons au ciel pour l'éternité en explorant la grâce de Dieu. Et ces choses, nous ne pourrons jamais les comprendre entièrement. Nous allons y réfléchir pendant toute l'éternité. Ces choses sont si merveilleuses. La grâce de Dieu, et c'est là le don qui doit être imprimé en chacun d'entre nous.